qu'il faut en fait utiliser des outils marketing pour gagner du temps. Pendant très longtemps en fait, avant que j'ai véritablement un vrai business, ce qui se passait en fait, c'est que j'essayais d'économiser de l'argent. C'est-à-dire que je me disais, oh non, bah, je vais faire moi-même, etc., etc. Et le jour en fait où j'ai pris une assistante virtuelle, que j'ai délégué une partie du travail, et le jour où j'ai acheté des logiciels pour gagner du temps, alors là, j'ai vraiment fait la différence.
Bienvenue sur L'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nahyar Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Canvet, fondateur du blog Conseil Marketing la nuit et Product Manager la journée. Frédéric partage avec nous ses débuts avec Conseil Marketing et comment il a réussi à générer un complément de revenus de 3000 euros par mois. Dans cet épisode du podcast, vous allez apprendre comment gérer votre temps efficacement avec la méthode du travail en profondeur. Comment monétiser votre blog sans y consacrer tout votre temps. Comment gagner sa vie quand on démarre sur Internet, et trois astuces de growth hacking pour vendre plus grâce à LinkedIn. D'ailleurs, j'ai enregistré une vidéo qui détaille étape par étape les trois astuces de growth hacking LinkedIn citées par Frédéric, plus une astuce bonus. Vous pouvez y accéder en vous rendant sur l'URL suivante envoo.co/LinkedIn. Tout attaché. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 9, top départ. Frédéric, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ?
Oh, bah bien entendu.
Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Canvet, le fondateur du blog conseilmarketing.com, l'auteur du livre Le Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects, et le product manager de Helocon. Frédéric, avant de parler de conseil marketing, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ?
Alors en fait, si je veux remonter vraiment dans le temps, il faut savoir que mes parents étaient commerçants. Et donc en fait, j'ai commencé vraiment à travailler, on va dire, dès 12-13 ans, à mettre des produits en place dans le magasin et tout ça, dans un petit supermarché. Donc, voilà, c'est l'entrepreneuriat, je l'ai connu dès le départ. Ensuite, après, j'ai toujours mené ça en parallèle de mon boulot, puisqu'en fait, je suis un petit peu débordant de projets. Et j'ai par exemple voulu monter avec des potes une start-up aux alentours de 2006 ou quelque chose comme ça, je pense. Et j'ai monté également une boîte avec un pote. On a monté en fait un magazine papier. C'est une aventure qui a duré à peu près 9 mois, qui s'est malheureusement pas bien finie. Et là, autrement, en parallèle de toutes mes activités, je suis aussi ma boîte. Là, je suis consultant et pour conseiller marketing mon site. Donc, c'est pour ça que j'ai ma boîte pour mes activités de consultant et mon site internet. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu 3 tentatives de création d'entreprise et une qui est un succès.
D'accord. Et concernant conseil marketing, comment tu as trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage ?
En fait, c'est vraiment simple. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai voulu monter une boîte avec des amis. Je crois que c'était aux alentours de 2006. Et c'est vrai que, on était chacun dans nos appartements. On était à Paris et on se voyait à peu près, on va dire, 2-3 fois par semaine. Et donc, en fait, on allait dans les appartements des uns des autres. Et on avait des sessions de travail. Mes deux amis étaient développeurs et moi, je m'occupais en fait du marketing. Et donc, c'est pour ça en fait que j'ai créé le blog Conseil Marketing parce qu'en fait, je prenais mes notes pour savoir toutes les actions que j'allais devoir mener au niveau de la communication, au niveau du référencement, etc., etc. Et donc en fait c'était entre guillemets ma checklist pour après lancer le business. Ce qui s'est passé c'est que finalement comme tous les développeurs mes amis étaient extrêmement perfectionnistes, ils étaient vraiment tout le temps, il fallait refaire la roue et finalement au bout d'un moment j'ai jeté l'éponge parce que c'est un projet qui avançait pas du tout. On y a consacré quand même pas mal de temps et d'énergie pendant je pense pas loin d'un an et en fait au final c'est Conseil Marketing le blog qui est resté et un autre blog aussi sur le coaching que j'avais créé en parallèle. Donc en fait c'est deux blogs qui me sont restés de ça et puis les deux blogs existent encore et le blog Conseil Marketing il rapporte plus de 40 000 euros à l'année et l'autre blog sur le coaching bon il est un peu mis sur le côté mais il me rapporte quelques milliers d'euros à l'année. Voilà.
D'accord. Donc comme tu as dit, t'as gardé une activité salariée Pourquoi tu as choisi de garder conseil marketing comme une activité complémentaire et non pas en faire ton activité principale?
En fait, c'est assez simple. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, des entreprises internationales, etc. C'est vrai que les projets étaient intéressants. En plus, quand t'es product manager, t'es entre guillemets le papa d'un produit, c'est à toi de le développer, etc. C'est vachement intéressant, mais souvent t'es frustré parce que tout simplement tu peux pas faire tout. Tu peux pas faire tout le marketing et tu dis merde, c'est pas possible, on pourra faire ceci, cela. Et c'est assez frustrant. Et donc en fait, c'est un peu pour ça que j'ai fait. La deuxième chose, c'est tout simplement pour m'auto-former au marketing. Par exemple, je me souviens, moi j'ai travaillé dans l'e-commerce au début des startups. Alors, j'étais pas le créateur de la startup, mais j'étais un des membres fondateurs, un des premiers salariés qui arrivait. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté et que j'ai rejoint une grosse boîte, et ben c'est vrai que ça a été assez marrant parce que je connaissais vraiment beaucoup de choses, j'étais vraiment en avance. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années, quand un stagiaire est venu et qui m'a dit tiens, tu connais pas ça, tu connais pas ça, tu connais pas ça, j'ai dit merde, putain, c'est pas possible. Je suis un petit peu tombé un petit peu alors moi qui me croyais au top, je dis je suis tombé un petit peu en arrière quoi, je suis tombé sur le cul. Et donc en fait je me dis ouais, il faut vraiment que tu te formes en continu, et en fait le blog me sert également à ça. Donc le blog me sert de plusieurs choses. Un, tout simplement avoir un statut légal pour l'entreprise. Deux, ça me permet de m'auto-former tout au long de l'année. Et trois, ça me permet aussi de développer mon propre business à côté. Parce que je pense qu'en fait, de plus en plus, les gens ils vont plus être forcément salariés et il va falloir en fait trouver son propre business, créer son propre business, créer son activité. Et c'est vrai que c'est intéressant d'être ce qu'on appelle un slasher. Un slasher, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a plusieurs activités. Parce qu'en fait, ça permet de vraiment de s'éclater sur différents domaines d'activité. Autant product manager, c'est sympa, mais on n'a qu'une toute petite partie du marketing. Autant, en fait, quand on a son propre business, sa propre activité, c'est vraiment sympa de pouvoir faire ce qu'on veut, être totalement libre. Et en plus, au niveau financier, c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que t'as tes revenus de ton salaire qui sont confortables. Et en plus, en fait, tu as tous les revenus de ton propre business à côté. Et donc, tu peux déduire pas mal de choses, tu peux faire passer des trucs au nom de ta boîte. Donc, c'est un statut qui est vraiment intéressant. Le seul truc qui est compliqué, c'est de gérer les deux activités, parce que tu vois, moi j'ai deux enfants, deux filles, et la dernière est née il y a à peu près 6 mois, et c'est vrai que ça devient un peu compliqué maintenant de gérer les deux, parce qu'un enfant en bas âge, grosso modo, moi j'ai estimé que ça te bouffait à peu près 25% de chiffre d'affaires, au moins la première année, et pas loin, un peu moins en fait la deuxième année. Donc en fait, c'est pas facile de cumuler ces différentes activités-là quand on a une vie de famille.
Et du coup, comment tu arrives à trouver un équilibre entre tout ça?
Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, si tu dirais à ma femme qu'est-ce qu'elle veut pour Noël le plus, elle veut du temps avec moi. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, tu arrives dans une certaine routine. Moi, je vois bien, en fait, quand tu commences à faire une activité pendant un certain temps, au bout d'un moment, tu es capable de faire les choses beaucoup plus rapidement. Par exemple, moi, pour mon blog, grosso modo, c'est 1 heure ou 2 le soir, 1 heure ou 2, peut-être un peu plus, peut-être 2-3 heures le week-end, et ça permet en fait d'entretenir le business. Alors, ça devient de plus en plus compliqué parce que quand t'es entrepreneur indépendant, tu luttes quand même contre des entreprises, tu luttes contre des personnes qui sont à plein temps, dans mon cas de figure. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver à faire la différence. Il faut essayer de faire des choses un peu plus en profondeur, différemment. Et souvent, en fait, moi, ce que je fais, alors, bien sûr, c'est dans le domaine du blog, c'est pas forcément partout, mais j'essaye vraiment de travailler ce qu'on appelle en profondeur, c'est le deep work. C'est un bouquin, en fait, qui existe, qui est assez intéressant. C'est un bouquin qui explique, en fait, qu'il faut rester concentré, il faut pas s'éparpiller. Et ce bouquin-là, moi, je le recommande vraiment de le lire. C'est Deep Work de Cal Newport. En fait, c'est un bouquin qui explique qu'il faut rester concentré un maximum sur une tâche et essayer de pas trop se faire distraire ou de parcelliser trop de choses. Par exemple, moi, je me concentre souvent sur écrire des articles de blog, faire des vidéos, et j'essaye de passer uniquement ensuite sur, par exemple, répondre aux emails, faire de la promotion sur les médias sociaux et tout ça, parce que ça, certes, c'est sympa, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui vous permettra de faire la différence. Si vous voulez vraiment faire la différence sur un marché, il faut travailler concentré sur une tâche, une action qui va vraiment apporter quelque chose de très 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 performant. Voilà.
D'accord. Alors Frédéric, tout à l'heure tu disais que conseil marketing génère 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que tu peux nous...
Non, pas par mois, pas par année. Hein. Parce que par mois, ça serait un peu beaucoup. Par mois, en fait, alors, après, je pourrais forcément augmenter pas mal. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le site, moi, j'ai comme philosophie de pas, entre guillemets, arnaquer les gens. Si tu regardes sur Internet, tu vois beaucoup de formations vidéo qui valent 200, 300 euros ou des choses comme ça. Moi, j'ai comme philosophie d'avoir des prix raisonnables. Tout simplement parce que c'est pas mon activité principale. En revanche, si du jour au lendemain, tu me disais, tiens, Fred, allez, hop, tu te mets à ton compte, j'aurais pas le choix. Je serais obligé d'avoir des prix comme ça, parce que si tu veux vivre correctement sur le web, en tout cas de formation vidéo ou de coaching, il faut avoir des prix élevés. C'est pas possible de faire enfin c'est compliqué de faire du volume avec des tout ce qui est formation vidéo et produits numériques.
Et si tu nous parlais de la ventilation entre formation, coaching et les autres sources.
Oh oui, c'est très facile. Bon, grosso modo, tu as 3 000-4 000 euros par mois en fait de chiffre d'affaires dans les grandes lignes. Donc en fait, comme c'est un site qui a pas mal de trafic, je pense que je dois avoir à peu près, allez on va dire un peu moins de 1 000 euros, à peu près 1 000 euros de publicité. Et c'est avec ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un revenu récurrent. Alors bien entendu, on est un petit peu bloqué par rapport au trafic, par rapport au fait qu'il y a des adblockers et tout ça. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est un moyen très simple en fait d'aller faire du business quand on a du trafic et du volume. Autrement, c'est vrai que c'est pas intéressant pour un petit peu. Ensuite, grosso modo, tu peux compter à peu près un tiers, encore une fois, un peu plus de 1 000 euros sur la vente de mes produits et mes formations. Donc en fait, j'ai fait un gros travail depuis un an sur la conversion. Et donc j'ai travaillé sur mes landing pages, j'ai travaillé sur mes produits, j'ai multiplié les formations, j'ai vraiment fait un gros effort là-dessus. J'ai travaillé sur des upsells, par exemple le bump, c'est quand tu achètes un produit, par exemple sur la SNCF, ils te proposent tiens pour 1 euro de plus, tu vas avoir l'assurance transport. Là c'est je fais le bump en proposant que des petites formations vidéo en complément. J'ai travaillé également sur le tunnel de vente au post-achat et pendant l'achat, c'est-à-dire que tu vas commander un produit et juste derrière en fait on va te proposer un produit supplémentaire, un upsell, hein, une montée en gamme, un produit complémentaire qui est un peu plus cher. Et comme ça, en fait, tu peux forcément avoir beaucoup plus de ventes. Et après, bien sûr, c'est de travailler son marketing automation derrière pour avoir un minimum de 7 messages. C'est vraiment le minimum. 7 messages derrière, en fait, après un produit payant. Et en fait, tu essaies de convaincre pour passer sur du produit soit plus cher, soit du downsell, c'est-à-dire que tu vas proposer du produit moins cher, du produit limité, des choses comme ça. Donc là, c'était mon gros focus de cette année. J'ai pas encore tout à fait fini, mais c'était vraiment un gros effort et ça paye pas mal parce qu'en fait avec la naissance de ma fille je me suis aussi cassé l'épaule et puis j'ai eu quelques petits soucis avec Google donc en fait j'ai eu une petite baisse de trafic et pourtant grâce à tous mes efforts que j'ai fait sur la conversion finalement mon chiffre d'affaires a été identique donc tu vois c'est quelque chose qui est important.
D'accord.
Donc tu m'as dit la première source hein, c'est la publicité AdSense en particulier, deuxième source tout simplement la vente de mes produits, troisième source tout ce qui est affiliation et vente de prestations. Alors normalement, la vente de prestations doit représenter beaucoup plus pour un consultant ou un blogueur, mais le problème c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps et j'aime pas trop en fait vendre mes heures. Par exemple, tu vois là, j'ai vendu une prestation lors d'une conférence pour en fait un organisme public pour expliquer un petit peu tout ce qui était le marketing. Finalement, entre le temps que j'ai utilisé à préparer le support, à faire la présentation, à me déplacer, à faire les réunions de coordination, finalement c'était pas rentable. C'était plus de 1000 euros certes, mais 1000 euros vu le temps que j'y ai passé, c'était vraiment pas rentable. Alors, j'essaye vraiment de décorréler mes revenus de mon temps. Et donc, le coaching et la formation, j'essaie de moins en faire parce que j'ai pas le temps.
D'accord.
Alors là, encore une fois, là, c'est mon cas particulier à moi. Une personne, en fait, qui va démarrer sur Internet entre consultant ou des choses comme ça, il aura tout intérêt au départ à faire de la formation et du consulting parce que ça lui permettra, en fait, de faire directement du chiffre d'affaires et de vivre correctement parce que vendre des e-books, des formations vidéo et tout ça, ça nécessite d'avoir du trafic, ça nécessite, en fait, d'avoir un bon tunnel de conversion et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Ok. Frédéric, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître Conseil Marketing ?
Alors traditionnellement, moi je suis vraiment à l'aise à l'écrit. C'est vraiment en fait ce qui est le point fort du blog. Hein. Moi en fait, toi, j'écris des articles assez rapidement. Je tape très vite à l'ordinateur. J'ai des idées qui sont assez claires. Et puis quand tu passes quasiment plus de 10 ans à écrire, finalement ça va très très vite et t'arrives à faire des trucs assez sympas. Donc vraiment, pour moi, c'est l'écrit et le référencement sur Google est vraiment ma top priorité. Cependant, il est très clair que le référencement sur Google est un canal qui va en fait diminuer au fil du temps parce que les gens en fait passent déjà moins de temps à rechercher des informations sur Google. Ils vont plutôt sur les médias sociaux, ils posent des questions sur Twitter, Facebook, ils vont sur les sites d'avis, etc. Donc en fait, malheureusement, le canal référencement est devenu un canal qui fera en décroissance d'une manière un petit peu régulière, faible mais régulière dans les années à venir. C'est pour ça en fait que si on est en entreprise, il faut absolument avoir une visibilité sur tous les canaux principaux où sont présents ses clients. Moi, par exemple, j'ai fait un très gros focus depuis un an et demi sur LinkedIn, qui est vraiment un super site internet. Vraiment, c'est LinkedIn, c'est sous-estimé par beaucoup de monde qui s'y sont pas mis depuis très longtemps. Et pourtant, voilà, je dirais que LinkedIn, c'est le Facebook d'il y a 4-5 ans. On peut encore automatiser plein de trucs. On peut faire du growth hacking. On peut pirater des choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment un super réseau. Donc là, LinkedIn est devenu aussi un gros pourvoyeur de trafic que j'utilise. Après, comme je te disais, j'utilise tous les canaux parce qu'en fait, il faut vraiment penser multicanal. C'est-à-dire que si moi j'ai aussi un podcast, hein, par exemple, je fais aussi de la vidéo. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de réutiliser en multi-support, multicanal, ce que je fais. Par exemple, tu vois, je vais faire un article de blog. Ben, l'article de blog, après, je vais faire un screencast, c'est-à-dire que je vais parler devant mon écran en lisant l'article et en apportant des choses en plus. C'est pas juste une lecture bête et méchante. Hein. J'apporte en fait de l'émotion, des anecdotes et tout ça. Et donc, en fait, après, j'en fais une vidéo, j'en fais un podcast. Et donc, en fait, ça me permet moi, je le mets sur Facebook, je le mets sur LinkedIn, je le mets sur Twitter en extrait. Et je renvoie après vers l'article texte. Et en fait, comme ça me permet tout simplement d'avoir plus de trafic.
D'accord. Tu as parlé de LinkedIn. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux astuces de growth hacking sur LinkedIn? Alors, je sais qu'on les trouvera dans ton livre, certainement.
Alors, en fait, moi, ce que je conseille d'utiliser, tout d'abord, c'est un logiciel qui s'appelle LinkedIn Helper. Ça coûte à peu près une quinzaine d'euros par mois et ça permet d'automatiser énormément de choses. Vraiment, je le recommande à tous ceux qui veulent faire du business sur LinkedIn. Donc, en fait, tu vas pouvoir, par exemple, rechercher sur LinkedIn tous les gens qui sont, par exemple, moi, dans mon cas de figure, c'est les directeurs marketing ou les responsables d'expérience client qui sont sur Paris. Et en fait, ça va automatiquement les ajouter avec un petit message personnalisé en disant « Bonjour Fred, je suis passionné d'expérience client et de la transformation digitale. J'aimerais prendre contact avec vous. » Donc, premier message où on met de l'émotion, on est très positif et on voit rien. Ensuite, le message derrière, donc avec LinkedIn Helper, il permet encore une fois de pouvoir envoyer un message. Et là, c'est un message dans la signature. Deuxième message, une fois que la personne a accepté, c'est « Bonjour, merci d'avoir accepté ma prise de contact. Quelles sont vos actualités? Quels sont vos challenges? Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. » Et ensuite, t'enchaînes de mon côté, les actualités, c'est la sortie de mon bouquin, plus par exemple un livre blanc, un web séminaire ou ceci, cela, ou une BD. Moi, j'utilise beaucoup la BD parce que c'est assez ludique. Et en fait, avec ça, tout simplement, ça permet d'aller capter les gens et d'aller les renvoyer sur ton site internet. Et en fait, grâce à ça, je génère en B2B des leads qualifiés, à peu près un lead minimum par semaine, et du lead vraiment de qualité, quoi, pas un lead foireux, hein, un lead vraiment de qualitatif parce que ma recherche est vraiment qualitative. Ça, c'est ma première astuce, LinkedIn Helper, qui est vraiment très efficace. Alors, je t'aurais donné une deuxième astuce qui est de créer un groupe et d'inviter les gens dedans pour pouvoir leur envoyer des emails et tout ça de manière automatisée. Malheureusement, LinkedIn est en train de revoir son système de groupe. Donc, en fait, pour l'instant, je suis encore un petit peu circonspect sur ce que ça va devenir pour les groupes sur LinkedIn. Néanmoins, voilà, c'est créer un groupe, ajouter toutes les personnes de manière segmentée pour pouvoir en fait être au centre de la conversation et fédérer une communauté, ça marche très très bien également. Troisième astuce, en fait, tu vas exporter ton archive LinkedIn et une à deux fois par an, par exemple pour le premier de l'an, par exemple pour les vacances d'été, et en fait t'exportes tous les emails des gens et tu leur envoies un petit message genre bonjour, nous sommes en contact sur LinkedIn, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2019, j'espère que ça se passe bien pour vous, de mon côté quelles sont vos actualités et challenges pour 2009, de mon côté je fais ceci, cela, tac tac. Encore une fois, comme tout à l'heure, on s'adresse d'abord aux clients d'abord et ensuite on va aller faire entre guillemets sa promo. Voilà. Donc trois astuces vraiment hyper simples que tout le monde peut mettre en place avec LinkedIn, et c'est vraiment un outil qui est sous-estimé, qui est aussi performant que Facebook.
D'accord.
Le problème, c'est que la publicité sur LinkedIn, elle est hyper chère et elle n'est pas très efficace, mais c'est un outil qui est vraiment, je trouve, très sympa à utiliser et qui permet de faire des choses assez originales.
D'accord. Frédéric, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Conseil Marketing ?
Alors en fait, c'est assez simple. Comme je te le disais, le focus de cette année, c'est vraiment orienté sur la conversion. Donc en fait, la conversion des pages de vente, la conversion des formulaires pour créer une liste de prospects. Je travaille beaucoup aussi en A/B testing de mes emailing. J'ai changé de solution de marketing automation pour passer sur GetResponse. J'ai segmenté mes listes. En fait, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Avant, en fait, tu vois, j'avais un bonus un petit peu générique pour tout le monde et j'utilisais Aweber pour cela. Je suis passé en fait sur Thrive Leads, qui est en fait un outil qui coûte 19 dollars par mois et qui me permet de faire des formulaires qui sont beaucoup plus sympas, faire des pop-up qui sont assez impactantes et tout ça. Et c'est assez sympa et ça permet aussi d'afficher en fait des publicités de manière contextuelle selon les mots-clés, selon les catégories. Donc en fait, ça a vraiment pas mal aidé pour améliorer ma conversion. Après aussi, j'utilise le même produit, Thrive Leads se décline en Thrive Theme, et donc j'ai travaillé beaucoup sur mes landing pages et c'est vrai que mes pages de vente sont beaucoup plus efficaces avec de l'A/B testing, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est objectif objectifs 2019-2018, hein, c'est la conversion, améliorer les pages de vente, être beaucoup plus efficace. Après, en 2019, en fait, bon, bah, ça va être essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête au niveau du trafic, une fois que j'aurai un petit peu avancé sur tout ce qui est conversion, et également développer le chiffre d'affaires avec plus de produits. En fait, par exemple, là, tu vois, j'ai une formation vidéo en continu qui s'appelle la Star Marketing Academy, où les gens s'abonnent tous les mois et reçoivent, en fait, une ou deux heures de vidéo. Et en fait, je suis en train de découper cette formation en mini-formation, ce qui me permet, en fait, d'aller multiplier le chiffre d'affaires, puisqu'en fait, quand je fais une formation sur une thématique dans la Star Marketing Academy, après, je peux la vendre aussi en unitaire, faire de l'upsell, du cross-sell et tout ça. Donc, suite à cela, ça sera aussi travailler mes séquences de marketing automation pour être beaucoup plus efficace, parce que pour l'instant, bon, c'est pas mal, mais je suis pas encore au top.
Ok.
Donc voilà, le travail en fait que je vais faire, je vais travailler beaucoup. Alors j'ai travaillé aussi beaucoup sur mes anciens articles. Parce que comme je disais, je me suis ramassé un petit taquet de Google parce que en fait pendant une certaine période avec la sortie de mon bouquin et tout ça, j'ai négligé un petit peu mes articles piliers, c'est-à-dire que les articles qui me ramènent du trafic depuis très très longtemps. Et donc en fait, je suis en train de les réécrire, les revaloriser, les remettre en avant. Et ça va être assez efficace parce qu'en fait, ça permet tout de suite d'aller en fait convertir mieux et se positionner toujours mieux sur des mots clés. Donc ça, je travaille beaucoup là-dessus et c'est vrai que ça commence à porter des résultats assez intéressants.
Quand tu dis il t'a pénalisé, c'est parce que les articles n'étaient pas assez longs ou parce que ça faisait trop longtemps que...
Ça faisait longtemps. C'était des articles qui dataient d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils étaient bien positionnés, mais en fait, bon, bah, forcément, ils étaient plus forcément d'actualité. Il y avait des liens brisés. Et puis, c'est vrai que maintenant, pour ressortir sur une thématique, il faut forcément écrire de très, très longs contenus. C'est plus un article de 1500, de 2000 mots qu'il faut. Ces gros articles-là, c'est quasiment des dossiers. Ces articles font entre 8000 et 10000 mots, ce qui est assez énorme. Et donc, en fait, ces articles-là sont véritablement mes piliers et je les soigne, je les mets à jour, je les renvoie sur ma newsletter, je renvoie du trafic et ça devient vraiment des piliers de mon activité. Il y a une conversion qui est très bonne là-dessus. Je fais des liens sortants vers mes autres articles clés. Enfin bon, tu vois, je travaille beaucoup là-dessus actuellement sur donc le référencement. Je travaille également beaucoup avec infinitesuggest.com qui est en fait un site qui me permet de générer des mots-clés supplémentaires que je vais intégrer en fait dans certains de mes articles. Parce qu'en fait, j'avais des articles qui dataient d'il y a plusieurs années où je me faisais pas chier, je mettais un mot-clé et puis voilà, c'était perdu, c'était fini. Et en fait, même parfois, il y a très très longtemps, 5, 6, 7, 8 ans, je mettais même pas de mot-clé. Et donc en fait, là, je suis en train de les revoir, les réécrire. Et pour ça, en fait, je passe par mon assistante qui est à Madagascar et qui fait ce travail de mettre des mots-clés et de revoir un petit peu la mise en forme des articles.
D'accord. Frédéric, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir ?
Alors en fait, moi je te dirais que le moment qui a été plus fort du côté négatif, c'est en fait lorsque j'ai monté ma boîte avec un pote, on a monté un magazine et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on avait à un moment donné, on avait le choix, c'était stop ou encore. On avait investi chacun 10 000 euros dans la boîte, je crois que c'était quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Et donc ou peut-être 20 000, je sais plus exactement. Enfin bref, on avait investi quand même un montant assez important. Et donc le magazine vivotait. Mais on n'arrivait pas en fait à passer à la vitesse supérieure. Donc en fait, on s'est vraiment dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Et c'est vrai que moi j'ai fait tourner un petit peu le simulateur Excel en disant voilà nos coûts, voilà les ventes, voilà ceci, voilà cela. Et en fait, j'ai dit à mon pote non mais de toute façon ça vaut plus le coup. On a quand même très peu de chances de réussir, donc on fait stop. Et c'était beaucoup plus raisonnable que de continuer à essayer de monter sa boîte parce que mon pote était en fait à temps plein dessus. Il arrivait à peine à se dégager un tout petit revenu, même pas un salaire complet. Et donc en fait, on s'est dit stop. Parce qu'en fait, lui, ça lui permet de rebondir, trouver un autre job. Et moi, en fait, c'était une très bonne expérience et ça m'a servi après tout derrière.
A contrario, quel a été le plus beau moment ?
Alors, le plus beau moment, il y en a eu pas mal des bons moments. Je dirais que des bons moments, ça a été en fait quand t'as des gens qui te disent « Ouais, super, merci pour la formation, merci pour ceci, merci pour cela. » C'est véritablement... D'ailleurs, moi, j'ai un peu perdu le fil. Je sais plus ce que je te disais. En fait, c'est quand les gens te remercient. Ça, c'est vraiment fort parce qu'en fait, tu dis que tu rends vraiment service à quelqu'un et ça, c'est génial. Et en fait, c'est le but en fait de mon blog. Je suis pas là pour faire un business, je suis là pour aider les gens. En faisant un peu d'argent, bien entendu, hein. Parce que de toute façon, si on n'est pas convaincu qu'on est là pour aider les gens, et si on n'est pas convaincu qu'on est là pour leur apporter quelque chose, on aura du mal à vendre. Si au contraire, tu es convaincu en disant, de toute façon, pour l'instant, ils ont rien, ils font pas grand chose, ils n'arrivent pas, etc., etc., et toi, t'arrives avec ta solution et que les gens sont contents, c'est génial. J'ai même des clients qui m'envoient régulièrement des SMS, des messages, j'en ai même devenu, en fait, j'ai pas ami, mais presque. Donc, en fait, c'est vraiment important, ça, c'est cette relation de confiance, et quand t'as un message comme ça en disant, super, ça m'a aidé, j'ai enfin réussi à décoller dans mon business, ça, c'est génial. La deuxième chose qui a été vraiment un temps fort, c'est la sortie de mon livre, parce que c'est vrai que quand tu écris des articles de blog, tu as toujours un petit peu la reconnaissance d'avoir un livre papier. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait pour deux choses, hein, tout simplement parce que la thématique du growth hacking était quelque chose qui m'intéressait, mais aussi parce qu'en fait, je voulais me positionner là-dessus. Et c'est vrai que écrire un bouquin sur une thématique, ça te positionne automatiquement comme un expert et ça te permet en fait de gagner en notoriété. Et là, depuis un an, j'ai eu pas mal d'opportunités business grâce à ce bouquin. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas forcément simple d'écrire un bouquin, mais en tout cas, c'est vraiment un excellent moyen de gagner en notoriété, en visibilité, parce qu'en fait, en France, hein, c'est encore dans les mœurs que quelqu'un qui a écrit un livre, waouh, c'est un expert, voilà. Et en fait, comment j'ai réussi à écrire le bouquin, c'est vraiment simple, c'est qu'en fait, de plus en plus, les éditeurs, là, mon éditeur, c'était Duno, comme les journalistes, quand en fait, ils cherchent un expert dans un domaine, ils tapent sur Google. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, à peu près tous les mois, j'ai un journaliste qui m'appelle parce qu'il m'a trouvé sur mon blog et qui me dit, tiens, je vous ai vu sur votre blog, est-ce que je pourrais vous interviewer là-dessus? Donc, le blog est vraiment un élément clé pour être visible, à la fois pour les clients prospects, mais également pour les prescripteurs, influenceurs, journalistes.
D'accord. Donc, le livre, c'était pas forcément votre idée, c'est l'éditeur qui vous a trouvé.
Tout à fait. D'ailleurs, au départ, en fait, l'éditeur m'avait demandé d'écrire un bouquin sur le blogging. Mais bon, je disais, un bouquin sur le blogging, il y a déjà tout qui a été créé. En plus, certes, j'ai un blog qui cartonne, etc. Mais je suis pas blogueur à 100%. Je sais comment ça fonctionne. Je l'ai été pendant quelques mois parce que, en fait, à chaque fois que je me suis mis comme ça en freelance, en indépendant, j'ai travaillé pour des boîtes et puis systématiquement, ils disent, non, mais vous aimeriez bien vous avoir à temps complet parce que c'est mieux. En fait, en France, les gens aiment pas trop à faire appel à un freelance. Ils préfèrent vraiment avoir quelqu'un sous le coude qui travaille à 100% pour eux. Voilà.
Frédéric, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes?
Alors, je dirais mon livre sur le growth hacking. Alors, le bouquin est assez sympa parce qu'en fait, ça explique comment on va sortir en fait un produit de A à Z. Mais autant le bouquin, il est là pour quelqu'un qui va se lancer. En plus, j'ai rajouté en fait une formation vidéo de 4 heures qui permet en fait à une personne qui a déjà un business existant de se lancer. Ça, si un bouquin, c'est bien sûr le mien. Mais autrement, j'ai plusieurs livres qui m'intéressent beaucoup et qui je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Le premier, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est quand même vraiment intéressant. J'aime beaucoup aussi Lean Startup de Eric Ries, qui est vraiment sympa et qui permet vraiment de créer sa boîte et d'avoir sa philosophie. J'adore et je recommande à tout le monde de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est vraiment un super bouquin et qui donne une claque à tout le monde. C'est vraiment top. Et je recommanderais éventuellement aussi Deep Work, comme je le disais, de Cal Newport, qui est assez intéressant. C'est un bouquin que je suis en train de lire actuellement, qui vraiment valorise le fait que tu dois travailler sur un sujet, être concentré à 100% et pas s'éparpiller. Autrement, si tu t'éparpilles, tu n'arrives pas à avoir un bon impact.
L'entrepreneur que tu suis ou dont tu es fan?
Comme je te disais, je pense qu'il est important de plus produire que consommer. Et le problème, en fait, de beaucoup de blogueurs, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils consomment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils lisent des blogs, ils lisent des articles, ils écoutent des podcasts, etc., etc. Mais par contre, passer à l'action, c'est leur problème. Ils restent un petit peu souvent dans le rêve. Moi, j'ai connu plusieurs personnes comme ça qui disaient, ouais, je vais monter ma boîte parce que ceci, parce que cela. Mais je me renseigne, je vais partir à un salon, je vais faire partie d'un mastermind, etc., etc. Et en fait, ils se lancent pas. Et donc, c'est pourquoi que moi, je te dirais que je n'ai pas en fait d'entrepreneur fétiche, que je ne suis pas, parce qu'en fait, je préfère déjà suivre mes propres pas. Et ensuite, je préfère réserver du temps à produire mon propre contenu avec mon expérience plutôt qu'en fait d'aller essayer de regarder trop de choses. Donc ça, c'est mon conseil. Si vous avez une chose à faire, c'est un peu lié à Deep Work que j'ai cité précédemment, c'est qu'il faut en fait plutôt produire, créer de la valeur, créer quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose qui fera la différence plutôt que d'aller consulter du blog, aller sur Facebook, Twitter, etc. Donc si vous avez vraiment une chose à faire aujourd'hui, au lieu d'aller sur les médias sociaux, d'aller regarder l'atelier, prenez votre PC, mettez-vous dans une pièce et avancez sur votre projet et bossez non-stop pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures là-dessus.
Ton outil en ligne préféré?
Alors, je dirais WordPress, parce que WordPress, c'est vraiment la boîte à outils où tu as tout ce qu'il faut. Hein. C'est vraiment le CMS le plus puissant. Il y a beaucoup de plugins et n'importe qui peut monter un site internet. Alors après, j'ai fait un top 150 des outils marketing qu'on peut retrouver sur mon site. Et c'est vrai que je dirais qu'il n'y a pas un outil qui fait vraiment la différence, parce que ça dépend véritablement de ton besoin. Je dirais, moi, qu'il faut en fait utiliser des outils marketing pour gagner du temps. Pendant très longtemps, en fait, avant que j'ai véritablement un vrai business. Ce qui se passait, en fait, c'est que j'essayais d'économiser de l'argent. C'est-à-dire que je me disais, oh non, bah, je vais faire moi-même, etc., etc. Et le jour, en fait, où j'ai pris une assistante virtuelle, ça me coûte à peu près 300 à 500, 600 euros par mois, que j'ai délégué une partie du travail. Et le jour où j'ai acheté des logiciels pour gagner plus du temps, alors là, j'ai vraiment fait la différence. Donc, en fait, il faut se dire que, il faut savoir un petit peu automatiser les choses et déléguer. Donc, je te dirais qu'il y a un outil que, donc, comme tu sais, ne pas hésiter à faire appel à une assistante ou à un assistant sur fiverr.com, 5 euros, etc., etc., pour lui déléguer une partie des tâches à faible valeur ajoutée, par exemple la rédaction d'articles de base ou la transcription. Après, moi, je recommanderais d'avoir un outil de marketing automation comme GetResponse. C'est celui que j'utilise depuis longtemps. Il a remplacé Aweber. Éventuellement, pour ceux qui sont allergiques en anglais, je dirais SG Autorépondeur, mais c'est quand même un peu moins performant que GetResponse. Voilà. Ensuite, au niveau des outils, bon, e-réputation, moi, j'aime bien avoir Mansion.net, Mansion.com, qui est un outil d'e-réputation qui est assez sympa, qui permet en fait de savoir un petit peu ce qui se dit sur sa marque ou sur son site internet. Donc ça, c'est assez sympa. Autrement, au niveau des outils de retouche d'image, moi, j'utilise beaucoup Photofiltr, qui est un petit outil qui est gratis et qui permet de faire très simplement quelques captures écran. Et c'est vraiment facile à utiliser. Voilà, c'est vraiment simple. Au niveau des images, quand on doit faire des images sur les médias sociaux, des illustrations, j'aime beaucoup Crello, qui est un petit peu l'équivalent de Canva. Crello est peut-être un peu plus sexy, un peu plus joli, et ça permet quand même de faire des choses qui sont très 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 cool et qui permettent en fait de faire des choses très sympas. En vidéo, j'aime beaucoup Potoon pour faire des dessins animés, ou GoAnimate, l'un ou l'autre. Les deux sont vraiment sympas. Vimeo, qui est pour moi la plateforme d'hébergement de vidéos qu'il faut avoir pour vendre des produits sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui est, bon, je dis pas indispensable, mais presque. J'aime beaucoup SlideShare qui permet de mettre en ligne tes PowerPoint. Et c'est vrai que ça sert à avoir un petit peu de visibilité pour tout ce qui est PowerPoint présentation. Au niveau des podcasts, moi, j'utilise deux outils. J'utilise Audioboom et SoundCloud. Ça me permet, en fait, d'avoir une liaison, en fait, avec iTunes. Donc ça, c'est assez sympa et j'aime bien l'utiliser. J'aime bien aussi en Link Tracker. Ça te permet de cibler un petit peu tes conversions. Ça, c'est assez sympa. J'aime bien Hotjar pour vérifier tout ce qui est conversion, qui est sympa. Donc, bien sûr, Thrive Team, j'en ai déjà parlé 50 000 fois, mais c'est vraiment un super outil et ça permet de faire des choses très, très sympas. En plugin WordPress, Yoast SEO, qui est vraiment sympa et qui permet d'améliorer facilement ton référencement. J'aime bien WP Rocket, qui est un plugin WordPress qui permet d'avoir du cache. Donc, vraiment très sympa également. J'utilise aussi Item Security, Login Security Solution ou WordFence pour tout ce qui est protection d'un blog, parce qu'un blog WordPress, le problème, c'est que c'est vraiment une passoire. En plugin WordPress, j'aime bien aussi Revival Post, qui permet de republier automatiquement des vieux articles. C'est assez sympa. En notification navigateur, j'utilise Push Engage, qui est vraiment un outil qui permet de pousser des notifications via le navigateur, qui est vraiment vraiment sympa, qui permet vraiment de faire des trucs simples. Donc, j'ai déjà parlé tout à l'heure de LinkedIn Helper, Octoparse aussi, qui est pas mal, qui est un outil vraiment simple pour faire des bases, en fait, du growth hacking. Voilà. J'aime beaucoup aussi Jarvi, qui permet d'automatiser aussi des choses sur Instagram, YouTube et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez sympas. En chat, j'utilise beaucoup ClickDesk, qui est un chat qui est pas cher et qui est assez performant. En chatbot, j'utilise beaucoup ManyChat, qui est un chatbot qui est sympa aussi. En capture écran, j'utilise Camtasia sur PC. Pour les Mac, ce sera plutôt ScreenFlow. J'aime beaucoup aussi SEMrush, qui est un super outil pour tout ce qui est analyse des mots-clés, référencement et tout ça. En alternative, il y a Ahref, qui est pas mal, mais bon, moi, j'aime bien SEMrush, qui est vraiment un super outil. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, Infinite Suggest aussi, qui est un très très bon outil pour récupérer des idées de mots-clés. J'utilise beaucoup aussi Evernote pour prendre des notes. Ça, c'est un outil que j'utilise très régulièrement et qui permet tout simplement d'être plus efficace. En collaboratif, quand vous bossez avec des gens sur un projet ou avec des sous-traitants, Slack, c'est vraiment un outil qui est vraiment très, très sympa. Voilà, donc là, je t'ai donné quelques petits trucs. J'aime bien aussi Kuneo. Kuneo, en termes d'outils, en fait, de facturation, qui est bien foutu pour les infopreneurs. Ça permet vraiment de faire des upsells, des cross-sells et tout ça. C'est un outil qui est très sympa. En optimisation de site web, j'aime bien GTmetrix, qui est assez sympa et qui permet de faire des trucs assez cool. Bon, voilà, je t'en ai dit une petite dizaine, une petite vingtaine. Je pense que t'en as déjà suffisamment.
Excellent, merci beaucoup. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui?
Déjà, en fait, écouter le client. C'est vraiment essentiel. essentiel parce qu'en fait, il y a plein de gens que je connais qui se lancent, j'ai l'idée du siècle, mais en fait, ils vont pas écouter le client et vérifier que bah, il y a vraiment une demande, une offre et que les gens sont prêts à payer. Et parfois, ils se lancent, ils créent un produit et c'est trop tard. Et ils se rendent compte qu'après avoir passé du temps, de l'argent, que ça satisfait pas ou c'est trop tard parce que le produit est trop évolué pour changer justement. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se dire, ok, on va rencontrer les clients, on va faire des discussions avec eux, on va faire des tests avec Facebook Ads pour essayer de tester des pages, des produits, des prix. Et là, c'est vraiment important parce que ça permet de confronter son idée à la réalité. Tu peux faire également avec du crowdfunding, hein, Kickstarter et compagnie. Tu peux également tester ton idée et voir si ça marche, si les gens sont prêts à financer. Enfin, mon premier conseil, c'est ça, c'est se dire, avant de lancer ton produit, commence déjà par vérifier que les gens sont prêts à payer.
Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton blog, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service ?
C'est pas simple parce qu'en fait, je serais tenté de te dire que c'est toi qui es ton meilleur investissement, donc il faut s'auto-former. J'essaye moi de me former, mais c'est vrai que comme je te disais, j'essaye un petit peu aussi de pas trop en fait copier les autres et puis j'essaie plutôt d'expérimenter par moi-même. Donc je dirais quand même s'auto-former. En n'y prenant pas trop de temps. Par exemple, tu as des formations vidéo, tu as Udemy, tu as Open Classroom et tout ça, qui permettent d'avoir un premier vernis. Souvent, c'est pas forcément les meilleures formations, mais ça permet d'avoir un premier vernis. Voilà. Ensuite, je dirais peut-être dès que possible d'avoir un sous-traitant, une assistante virtuelle. C'est vrai que ça aide un peu. Pour l'instant, je pense pas que j'utilise encore à 100% mon assistante. Hein, j'utilise pas encore, enfin à 100% de ses capacités. Mais c'est vrai que ça permet de gagner un petit peu de temps. Et après, en fait, investir dans tous les logiciels hein, qui existent, parce que dès que tu dois faire des trucs à la mano, vaut mieux en fait passer par un logiciel. Voilà, je dirais ça.
Frédéric, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ?
Tout simplement, ils vont sur conseilmarketing.com et ils pourront voir le blog. Ils peuvent me voir sur Twitter, conseilmkg. Ils peuvent me voir sur LinkedIn en tapant mon nom, Frédéric Canévet. Ou alors, ils peuvent me trouver également sur Facebook, sur la page Conseil Marketing.
Merci Frédéric, à bientôt.
À bientôt, bye bye.
Merci encore à Frédéric pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au bonus de l'épisode, une vidéo qui détaille étape par étape les 3 astuces de growth hacking LinkedIn citées par Frédéric, plus une astuce bonus, en vous rendant sur l'URL suivante, envoo.co/LinkedIn. Vous pouvez aussi accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant, envoo.co/9, le chiffre 9. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envoo.co/iTunes. Ça prend moins de 2 minutes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur en vous. C'est l'arrivée.